Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir bravé les risques de verglas ce soir. N'oubliez pas de faire attention tout à l'heure quand vous redescendrez, sur les trottoirs en particulier. Vous avez pu voir à l'entrée qu'il y a des livres des éditions Lesius qui sont en vente. Je voudrais juste en dire un tout petit mot pour vous en recommander. Ils sont tous recommandables, Oui, d'autant plus c'est à des prix démocratiques, entre 30 et 50% de réduction sur le prix libraire. Donc, ils sont tous recommandables. Mais parmi eux, le premier, mais méfiez-vous, il n'y en a que 5, je crois. C'est le livre de Jean-Marie Faux, du père Jean-Marie Faux, « La foi du Nouveau Testament ». Le cours du soir que vous suivez en ce moment doit beaucoup à cette œuvre. C'est une analyse de l'acte de foi, indépendamment, non pas indépendamment, mais sans le contenu de la foi, mais toutes les premières leçons, et notamment la foi biblique, eh bien tout cela est analysé à Vatican II, Vatican I, tout ce, le rapport entre la foi et la philosophie, toutes ces questions qu'on a abordées sont présentes dans ce livre que des théologiens de Paris, s'il vous plaît, disait qu'il n'était pas assez connu. Donc voilà, je vous le recommande. Et puis, pour suivre le cours qu'on a eu sur foi et philosophie, vous avez le livre « L'affirmation de Dieu dans la tradition philosophique » du père Pierre Piret. Et voilà, je n'ai pas besoin d'en faire la publicité. Vous avez entendu vous-même le père Piret à 2 reprises. Donc, il n'est pas seulement spécialiste de christologie, mais la première séance qu'il nous a donnée était sur la foi et la philosophie. Et donc lui, il parcourt comment dans la tradition, dans l'histoire de la philosophie, des hommes où on osait aller jusqu'au seuil et faire ce seuil en disant « Oui, la foi est possible. Je peux affirmer Dieu. » De Peter Knauer, du jésuite allemand Peter Knauer, Pour l'intelligence de notre foi, c'est un essai très personnel sur la manière dont lui, jésuite qui a connu le concile, l'après-concile, eh bien, vit sa foi. Et puis, du père Alain Mathéus, que je vais introduire, un de ses ouvrages, il y en a tellement, eh bien, « S'aimer pour se donner, le sacrement de mariage », un très beau livre sur la théologie du mariage, mais avec les liens avec l'anthropologie, le fait qu'il est possible de s'aimer. Oui. Et puis, de l'archevêque de Malines-Bruxelles, quand il était professeur, c'était son livre phare, « Foi et philosophie, guide pour un discernement chrétien », un très bon livre aussi à recommander. Voilà. Et je n'ai moi-même aucun cadeau, aucune réduction aux éditions Lesius. C'est vraiment pour l'amour de l'art. Le père Alain Mathéus, pourquoi est-ce qu'il intervient maintenant? Eh bien, vous vous souvenez, on a fait une première étape dans ce cours sur l'acte de foi. Qu'est-ce que c'est que croire? Et puis, la deuxième étape, on a examiné des points focaux de l'acte de foi dans les symboles que la tradition chrétienne nous a donnés et que chaque dimanche nous reprenons pour nous avec le contenu de ce que des affirmations principales des symboles des apôtres, du symbole de Nicée-Constantinople. On avait abouti à considérer le credo ecclésiam, je crois en l'Église, qui n'est pas la même chose que je crois en Dieu, la semaine dernière avec sœur Noël Haussmann. On arrive à une nouvelle étape, c'est la foi dans sa relation avec les autres vertus théologales, ce qu'on appelle les vertus théologales, qui nous disent quelque chose de Dieu, qui viennent de Dieu immédiatement, qui nous font aller vers Dieu. C'est aujourd'hui que commence la partie sur la charité. La foi et la charité. Est-ce qu'il y a un rapport entre la foi et la morale? Quelle est l'implication, en d'autres termes, de la foi? Quel est ce à quoi la foi conduit dans la vie quotidienne? Nous ne passons pas notre vie à professer la foi, à dire « je crois, je crois, je crois ». Non, nous agissons. Est-ce qu'il y a un lien entre le « je crois » et « j'agis ». Et au mois de janvier, ce sera le pôle de l'espérance avec les fins dernières, comme on dit, « je crois en la vie éternelle » et la prière chrétienne. Voilà, merci Alain de nous introduire à « je crois, donc j'agis » en chrétien.
Oui. Eh bien, je crois que le titre est assez simple. La conférence et le cours vont essayer de déployer simplement le titre « Je crois, donc j'agis en chrétien ». Le rapport entre la foi et l'agir n'est pas seulement formel, c'est vraiment une question importante. Elle travaille d'ailleurs la conscience des croyants, des baptisés depuis de longues années, depuis toujours, je crois, et de plusieurs manières. Selon les époques, les formulations de cette relation ont été diverses. Certains ont été jusqu'à dire « la foi seule suffit », les œuvres sont totalement secondaires, et les actes de charité ne servent finalement à rien pour entrer au ciel. Ce n'est pas la quantité d'actes bons qui nous mérite le ciel. C'est parfois un peu quand on la position protestante. Seul importe la foi, seul importe la grâce que Dieu nous accorde et accorde peut-être à tous les hommes à travers leur conscience. Et puis on poursuit cette réflexion et on dit, ne sommes-nous pas tous des enfants de Dieu? Et par ailleurs, le chrétien n'est-il pas comme tout le monde? Ceux et celles qui sont dans l'Église ne sont pas meilleurs que les autres. On le voit, on le constate. La foi, dit-on, ne change pas beaucoup l'agir de l'homme. En tout cas, elle ne semble pas rendre les chrétiens meilleurs que les autres. Certains pensent que les chrétiens, d'ailleurs, n'ont pas beaucoup changé le monde ni la culture dans laquelle ils ont vécu. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, Saint Jacques nous dit, nous interpelle, j'ai mis ça sur la feuille de route, cette citation, de Jacques au chapitre 2, « À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « j'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous leur dise « allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? Ainsi en est-il de la foi ? Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Voilà la parole de Jacques. La question pourrait s'énoncer d'une autre manière et tarauder nos consciences. Quand le Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? N'est-ce pas dire de manière équivalente, trouvera-t-il des hommes brûlants de charité pour les autres? Et n'est-ce pas ce qu'il attend de nous? Cette question est redoublée quand on lit la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, que j'ai mis aussi sur la feuille de route. Lors du jugement, du retour, alors le roi dira à ceux de droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier de venir te voir ?» Et le roi leur fera cette réponse, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le titre « Je crois, donc j'agis en chrétien » semble facile, mais le thème implique plusieurs questions, comme un peu les poupées russes que l'on ouvre ou certains cadeaux de Noël. La première question c'est de se poser, c'est celle-ci, le fait de croire est-il lié à un agir? Croire en Dieu, au Christ, nous pousse-t-il à agir pour dire notre foi, pour l'exprimer, pour en rendre compte, pour qu'elle soit vivante, pour être en vérité avec la grâce reçue? C'est une manière de formuler. Et une autre question plus radicale, la foi comme acte de l'homme. Quand on dit « je suis croyant » ou quand on prononce le credo, on pose des actes. C'est aussi important quand même que de conduire sa voiture, voilà, ou de laver les vitres, ou de faire une tasse de café. Eh bien, l'acte de foi en lui-même est un acte moral, un acte humain particulier, et normalement c'est un acte bon, puisqu'il est pétri de confiance en celui qui nous aime, et donc qu'il appartient, par la liberté de celui qui croit, à l'ordre moral. Il nous faudrait donc penser déjà la foi comme un acte radical, à la racine de tous les autres actes, un acte radical qui se symbolise dans le temps, par le sacrement de baptême pour nous, et se renouvelle dans l'histoire sainte de chaque personne. Et alors la croissance dans l'agir chrétien dépendra de l'actualisation du oui de la foi, de ce oui du baptême. Et on pourrait parler d'une croissance dans la foi au fur et à mesure que nous progressons dans le bien. Et qui donc il y a un aspect théologal de notre agir, que cet aspect théologal grandit aussi, ou grandirait, puisque je n'ai pas tout expliqué ni argumenté, mais grandirait selon le rythme de la foi. Vous voyez, déjà deux, trois questions un peu plus complexes. Mais une autre question n'est pas moins complexe ni délicate. L'action du chrétien n'est-elle pas radicalement différente de celle des autres? Sa foi ne le porte-t-elle pas à faire des choses spécifiques, propres à lui comme chrétien? Y a-t-il donc un agir spécifique pour les chrétiens? Historiquement, on peut tout de même noter que les chrétiens ont souvent été comme un ferment dans les sociétés qu'ils habitaient. Ferment de charité, ferment de changement de coutume, ferment de contestation ou d'interpellation. Et ils ont été identifiés comme chrétiens aussi pour cela. En Inde, par exemple, Mère Teresa et ses sœurs ont été reconnues dans leur consécration de femmes et leur amour du Christ pour avoir pris des soins des gens dans la rue et des intouchables. Dans certains pays, les chrétiens sont appréciés ou soupçonnés parce qu'ils sont proches des minorités ethniques ou des pauvres. Dans notre tradition, la vie des saints fourmille d'attestation de la vie de charité. Ces exemples donnent du poids donc à toute réflexion, comme celle de ce soir, qui sans cela garderait un caractère un peu abstrait. Selon les sociétés, selon les cultures, les chrétiens sont perçus souvent comme ceux qui font quelque chose pour les autres, ou bien comme ceux qui ne font pas comme les autres et qui disent non à de nombreuses manières de faire. Aujourd'hui peut-être, nous en parlerons peut-être après, sommes-nous plus proches de cet état de fait? Les chrétiens sont appelés en Occident à ne pas agir comme tout le monde, ne pas avorter, ne pas utiliser la contraception, ne pas vivre comme des rentiers, ne pas travailler le dimanche, ne pas utiliser des moyens violents. Jésus ne dit-il pas « Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux » en Matthieu 5, verset 16. C'était en guise d'introduction. Mais maintenant, je vais procéder en trois autres temps. La première question que nous avons posée, c'est celle de la relation de la foi et de l'agir. Et j'irai depuis l'origine jusqu'à Jésus, dans l'histoire du salut. On dit en effet d'Abraham dans la Bible qu'il est le père des croyants, notre père dans la foi. Tel est son titre, car sa vie est marquée par une grande confiance en Dieu et en sa promesse, confiance souvent mise à l'épreuve. Croire pour Abraham, c'est écouter la parole du Seigneur, lui obéir, faire sa volonté à travers toute sa vie. Va, quitte ton pays, la maison de ton père, pour la terre que je te donnerai. Dieu le comble de ses bénédictions tout en lui demandant de partir. Il lui promet une descendance plus nombreuse que les étoiles dans le ciel et que les grains de sable de la mer. Donc cette foi, cette confiance d'Abraham le met en route, lui demande de partir de chez lui pour aller vers l'inconnu en fondant sa vie sur une promesse. Sa foi en Dieu implique cette vie nomade au début vers le pays que Dieu lui indiquera. La promesse divine est liée à sa foi. Elle en est presque comme une récompense ou bien une attestation. Abraham, quoi qu'il arrive, même à travers l'épisode de son fils Isaac, est tendu vers une promesse divine, une vie ailleurs, dans une famille et une terre qui seront à la fois la sienne et celle donnée parce que promise par Dieu. La figure d'Abraham dans les premières pages de l'Histoire sainte, dans le livre de la Genèse, nous indique donc que la foi suscite et nourrit un mouvement dans l'espace et dans le temps. Une action concrète comme celle de quitter ses assurances, sa terre, ses biens acquis, pour marcher avec Dieu et vers Dieu. Et la composante du temps de l'homme, le temps de l'homme est bien inscrite dans l'acte de foi. Pour Abraham et aussi pour les générations qui le suivront, en effet, tous dépendront ou reconnaissent dépendre de sa manière de croire et de vivre, puisque nous disons qu'il est notre Père dans la foi. Dans l'histoire du salut, un autre événement biblique éclaire notre problématique, c'est la sortie d'Égypte. Les Hébreux, trop nombreux dans ce pays, y étaient soumis à l'esclavage. Ce qui les unissait était l'appartenance clanique et familiale. Lorsque Moïse, au nom du Seigneur, s'adressa à Pharaon pour lui manifester la volonté divine, Moïse lui dit au nom du Seigneur, « Laisse partir mon peuple, je veux qu'il me rende un culte. » Dieu, en libérant les Hébreux de l'esclavage, veut en faire son peuple, un peuple qui l'honore en profondeur. La Pâque juive est donc l'acte par lequel Dieu passe à nouveau en Égypte, sauve son peuple de la servitude des Égyptiens et le conduit au désert jusqu'à la montagne du Sinaï. En cette Pâque, le Seigneur constitue les Hébreux comme son peuple choisi. Le choix de Dieu et la réponse de son peuple sont les deux fondements d'une alliance nouvelle. Et cette alliance est plus qu'un contrat juridique ou qu'une charte constitutionnelle comme nos États. Cette alliance vient de la foi. C'est la foi du peuple juif qui s'exprime alors dans l'accueil du don de la Torah au Sinaï, quand Moïse redescend de la montagne pour donner et offrir les commandements de Dieu à son peuple. Ces commandements de Dieu disent un mode d'agir lié à une confiance mutuelle. Dans le don de la loi, Dieu rappelle les conditions de surgissement de l'agir pour les membres de son peuple. J'explique. « Puisque je vous ai libéré d'Égypte, dit le Seigneur, c'est le prologue historique, et pour rester dans cette liberté de la foi-confiance, voici ce que vous ferez. Si vous agissez ainsi, non seulement vous ferez bien, mais vous resterez libre et vous serez en vérité mon peuple. » Le don de la loi des 10 commandements exprime donc les conditions de la liberté du croyant. Les commandements à cette lumière sont une grâce qui permet de rester libre. Pour les Hébreux, comme pour nous, le Seigneur a fait le premier pas. C'est lui qui a fait monter Israël d'Égypte, c'est lui qui a appelé Moïse sur la montagne. Il les a libérés, il nous a libérés. Et il attend notre assentiment, celui de notre foi. Nous marchons avec lui pour l'honorer et faire comme lui. Nous observons les commandements qu'il nous a donnés. Donc dans l'accueil de la loi, nous répondons en acte à la confiance que Dieu nous a offerte. La foi des Hébreux et la nôtre, à la suite, ne peut pas être abstraite d'un amour des commandements et de leur respect pour le bonheur de tous et de chacun. Nous savons que les 10 paroles ou les 10 commandements rejoignent aussi ce que la conscience commune de l'humanité peut reconnaître et accepter. Par exemple, « Tu ne tueras pas », le 5e commandement, n'est pas réservé aux Juifs ni aux chrétiens. Ces 10 paroles rejoignent l'ordre de la création, la dignité de tout homme. Dans le récit du Deutéronome, ces paroles disent aussi clairement la manière d'aimer et d'agir de tout un peuple qui se sait, qui s'éprouve sauvé, racheté par son Dieu. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous adhérons à cette révélation d'un Dieu qui est entré dans l'histoire, a agi pour le bien de son peuple et de chacun, et qui nous donne en Christ la force d'aimer par son esprit. Ce Christ qui est aussi celui, comme juif, qui connaissait bien les 10 paroles et toutes les autres exigences du livre du Lévitique, eh bien Jésus, ce Christ, a rapproché de manière unique et unifiante deux appels éthiques fondamentaux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, qui reprend d'ailleurs Deutéronome 6, verset 5, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, à travers Jésus et son application originale de la loi, nous voyons une actualité de cette Torah, une originalité sans pareil. Et saint Jean en parle au chapitre 15. L'exemple du Christ lui-même atteste l'importance de cette unité de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. N'est-ce pas sa réponse au docteur de la loi qui cherchait à gagner la vie éternelle? Il lui dit, dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Comment lis-tu? Le légiste répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Dans saint Luc chapitre 10, versets 26 à 28. Ainsi, le baptisé a conscience qu'il est sauvé et tiré de toute mort et de tout esclavage dans le Christ et qu'il est appelé à observer les commandements pour vivre de ce salut. Saint Jean dit au chapitre 14, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Il sait aussi, le baptisé, que le Fils, sauveur du monde, est venu lui donner la force de vivre de ses commandements, et la force aussi de les observer par amour. Il sait que l'observance de la loi ne suffit pas, elle serait uniquement formelle ou rituelle. Ce n'est pas la loi qui sauve, c'est le Seigneur. C'est son Fils Jésus, né d'une femme de la loi, mais de notre chair, c'est lui l'unique sauveur. Ainsi, les commandements sont-ils, me semble-t-il, transfigurés par la foi en Christ. L'Esprit de Jésus leur donne vie en nous et nous indique l'unique loi qui fait vivre l'imitation et la suite du Christ, faire en tout ce qu'il ferait avec la force de l'Esprit. En développant ainsi, en parlant ainsi, en lisant ainsi la Bible, il me semble que je montre aussi que les commandements de l'Ancien Testament ne sont pas oubliés ou ils ne sont pas niés dans le Nouveau Testament. Ils sont accomplis à la perfection par l'unique juste qu'est le Christ. En lui, Jésus nous indique combien la foi est active. Elle aime jusque dans le iota, la petite lettre, de la Torah. L'homme créé à l'image et à la ressemblance divine est recréé en Jésus-Christ. Dans la personne du Christ, nous trouvons la source de notre agir. En croyant qu'il est notre unique sauveur, nous parvenons à faire comme lui et à célébrer par lui, avec lui et en lui à la gloire du Dieu unique. Nous ressemblons alors au premier Adam qui est le Christ, qui est désormais la référence unique de l'histoire des hommes. À Pâques, nous disons qu'il est l'alpha et l'oméga. Croire au Christ, c'est donc lui ressembler par grâce. Ainsi, notre histoire, avec tous ses faits et gestes, doit-elle être à la ressemblance de l'histoire de Jésus, de ses faits et gestes, de ses paroles? Saint Ignace dirait de ses mystères. Nous sommes appelés à lui ressembler comme des frères adoptifs et à faire de nos histoires des histoires communes, fraternelles et saintes. La vocation de l'homme au bonheur passe par des actions bonnes qui font du bien. Comme le faisait le Christ sur les routes de Palestine, il passait, dit l'Évangile, en faisant le bien, en guérissant les malades et en ressuscitant les morts. La foi donc en Jésus-Christ implique une identification à lui par son esprit. Elle implique de lui ressembler en actes et en paroles dans le libre consentement de notre liberté. Désormais, par le baptême, mais par aussi la vie chrétienne, le croyant fait, c'est un jeu de mots, mais vous voyez ce que ça veut dire, le croyant fait corps avec le corps du Christ. Nous lui ressemblons non pas en esprit, mais par son esprit et aussi en nos corps. Cet appel au bonheur, cette béatitude du salut s'exprime de manière tellement belle et paradoxale dans l'énoncé des béatitudes évangéliques, où le Christ décrit à la fois qui il est et ce que nous sommes appelés à devenir pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Cette économie du salut dont je vais parler, cette économie sacramentelle, donc ne supprime pas l'observation des commandements, mais leur donne un horizon christologique. Par les commandements, nous cheminons vers la grâce nouvelle qui nous identifie au Christ et nous offre alors un bonheur définitif, dans le temps déjà qui est le nôtre, mais toujours en lien avec l'éternité de son salut. Bienheureux les pauvres, bienheureux les cœurs purs, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux les pacifiques, bienheureux les miséricordieux. Toutes ces paroles de bonheur sont concrètes et sont dans l'histoire. Et ces béatitudes sont au cœur de la prédication de Jésus. Si je reprends une citation du catéchisme de l'Église catholique au numéro 1716, il décrit ces béatitudes ainsi: leur annonce reprend les promesses faites au peuple élu depuis Abraham. Elle les accomplit en les ordonnant non plus à la seule jouissance d'une terre, mais au royaume des cieux. Il s'agit donc toujours bien de ressembler au Christ, et de fait, ces béatitudes dessinent le visage de Jésus-Christ. Je cite encore le catéchisme: elles éclairent les actions et les attitudes caractéristiques de la vie chrétienne, elles sont les promesses paradoxales qui soutiennent l'espérance dans les tribulations. Elles annoncent les bénédictions et les récompenses déjà obscurément acquises aux disciples. Elles sont inaugurées dans la vie de la Vierge Marie et de tous les saints. Les béatitudes répondent donc à la soif de bonheur qui est aussi dans le cœur de tout homme et dans le cœur du chrétien. Et elles nous disent la fin, donc la finalité ultime de tous nos actes. Dieu nous appelle, dit le catéchisme, à sa propre béatitude, à son bonheur à lui. La foi, dans ce contexte, est toujours un consentement libre à l'action de Dieu qui nous devance. Dieu a fait le premier pas, il a voulu conclure une alliance, il nous comble de sa miséricorde, il nous donne sa vie en son Fils. La foi est notre réponse à ce désir et à cette action de Dieu qui est dirigée vers chacun de nous. Ainsi, comme en retour, dans un oui qui consume notre liberté, la foi est-elle un acte de confiance qui traverse l'espace et le temps. Cet acte humain est bon. Comme nous disons dans les préfaces eucharistiques, dans la messe, on entend parfois, je crois souvent, mais le prêtre qui dit: il est juste et bon de te rendre grâce. À toi Dieu, le Père Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur. Eh bien, cet acte humain de la foi est bon en ce sens-là, parce qu'il rend gloire à Dieu, parce que nous parvenons à dire merci à Dieu. Nous rejoignons le Créateur. La foi, et donc je termine un peu cette argumentation du premier point, la foi et l'agir. La foi comme acte en retour, comme offrande, est elle-même un acte particulier qui imprègne donc toute notre vie, mais s'exprime de manière particulière dans des actes précis dont nous parlerons, la prière personnelle et communautaire, dans les sacrements accueillis et demandés. La foi donc ne peut pas être virtuelle, conceptuelle, sans rapport avec notre corps, le corps des autres, le corps de l'Église, le corps de l'humanité. Croire en Jésus engage l'être humain tout entier, et dans les actes posés, transforme cet être humain petit à petit à l'image de Jésus. La foi suscite un agir, car comme don de Dieu, elle suscite un oui de la liberté qui par la foi connaît la vérité, obéit à cette vérité, dit saint Paul, et espère l'accomplissement de cette vérité dans l'histoire humaine. J'ai développé un peu ce lien, ou cette articulation entre la foi et l'agir, qui est le premier point. Maintenant, tout en approfondissant ce que j'ai déjà dit, et donc je vais reprendre certains termes où j'ai parlé peut-être trop vite, eh bien, j'aborde la question délicate, difficile, de l'agir spécifiquement chrétien. Le chrétien agit-il de manière différente? A-t-il une manière tout à fait caractéristique d'agir? Eh bien, en théologie morale, il n'est pas facile de définir cette différence. On pourrait dire, c'est en ce sens que j'ai souligné dans le point 2, en caractère gras de la feuille de route, trois positions ou trois accents en caractère gras que je vais expliciter. On pourrait dire que les actes des baptisés surgissent tout ensemble de leur foi, de leur espérance et de leur charité, des vertus théologales, comme on a dit au début de l'exposé. Ces actes ont-ils une qualité particulière du fait qu'ils émanent de la foi ou qu'ils sont suggérés par les évangiles? Par exemple, aimer nos ennemis, partager ses richesses, pardonner 77 fois, 7 fois, c'est-à-dire toujours. Eh bien, certains auteurs définissent l'agir spécifiquement chrétien par un acte précis, par tel ou tel acte. Aimer ses ennemis, par exemple, ça c'est chrétien. Selon eux, l'objet moral de certains actes peut être défini comme typiquement chrétien. Tel acte surgit de la foi, tel acte est chrétien parce qu'un non-chrétien n'est pas capable de le poser ou bien n'est pas appelé à le poser. Dans cette ligne de ces auteurs, on admire la foi de ceux et de celles qui se consacrent entièrement à Dieu, par exemple, dans les monastères. Tout est grâce. C'est la pointe d'une morale parfaite, parfaitement accordée à la foi, et qui différencie le chrétien des hommes de son temps et de tous les temps. Le martyr, par exemple, des chrétiens à travers les siècles, atteste l'aptitude de la foi des croyants à aller jusqu'au bout de l'amour et à poser des actes spécifiques. Le martyr des chrétiens, c'est pas le kamikaze. Quoi. Dans la même ligne de la reconnaissance d'actes particuliers du chrétien, on pense à ce que Paul dit aux Galates pour les dons de l'esprit, à la vie spirituelle à laquelle chacun de nous est confié, ou des chrétiens, le chrétien prie, et sa prière est différente de celle des autres hommes. Il vit les sacrements de l'Église alors que les non-baptisés ne le font pas. Se nourrir du corps et du sang du Christ appartient à la vie de foi. Être baptisé nous engage à aller au moins tous les dimanches à la messe et à faire communauté avec nos frères et sœurs rassemblés. Nous appartenons à la même Église et nous posons des gestes propres à cette Église. Pour d'autres situations de la vie, on peut penser de même, dans le même cadre, dans la même position morale. Se marier à l'Église engage pour toujours, alors que le civil, pas. Se marier à l'Église comporte des exigences morales et spirituelles caractéristiques. C'est quand même bien différent du pax ou du mariage civil. Certains puisent leur force dans les sagesses des peuples et chrétiens, dans ce courant théologique. Ces chrétiens, sans s'opposer à cette sagesse des peuples, sont davantage appelés à écouter la parole de Dieu, à vivre, comme dit saint Paul, une sagesse qui est folie aux yeux des hommes, et ainsi à répondre à l'appel du Christ lui-même dans le silence du cœur. Certains voient le bien dans l'action. Et bien d'autres disent que les chrétiens, ils sont appelés aussi à l'action, mais ils sont appelés à la contemplation, à la prière d'abandon et de demande, qui sont des actions incontournables, puisqu'elles placent dans une confiance radicale vis-à-vis du Seigneur de l'histoire, et donc qui sont spécifiquement actions chrétiennes. Voilà comme un premier courant, une première attitude. D'autres situent la spécificité de l'agir chrétien, non pas seulement dans l'intensité de l'acte et son caractère ecclésial, mais dans son intentionnalité. Dans cette hypothèse, c'est l'intention bonne qui guide nos pas et nos vies. Ainsi, la bonté suffit-elle aux chrétiens pour faire au nom du Christ des actes bons et que le Christ approuve ? Les actes posés sont les mêmes pour tous les hommes, mais c'est à l'intérieur de la conscience et du cœur que tout se différencie. D'autres hommes posent les mêmes actes, mais ils ne le font pas au nom du Christ. Ils ne sont pas poussés par l'Esprit Saint. Ces actes ne sont donc pas si différents de ceux qui sont posés par les hommes et les femmes de bonne volonté. Cependant, comme chrétien, je pose un acte au nom du Christ et dans l'Église. Cela le spécifie, lui donne une qualité particulière. Oui, je me mets dans cette position-là, hein, et je l'explique. J'agis au nom du Christ. Pour lui, cette intentionnalité peut prendre des formes différentes, peut s'exprimer différemment. Je donne quelques exemples. Bien voilà, je le fais pour être comme Jésus, pour gagner le ciel, pour donner un bon témoignage, pour m'ouvrir à la différence, pour être cohérent avec mon engagement conjugal ou sacerdotal, pour être cohérent avec les paroles de l'Évangile, pour accomplir une promesse. Je vais à Saint-Jacques-de-Compostelle, voilà. Pour être fidèle à mon baptême et à ma profession de foi, pour être et rester fidèle à l'Église qui me le demande. Puisque Jésus nous l'a promis dans l'Évangile, en vérité, celui qui croit en moi fera lui aussi des œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, dit Jésus, parce que je vais vers le Père. C'est dans Saint Jean, chapitre 14, verset 12. Donc, pour ce courant-là, la foi nous pousse intérieurement, l'intention compte. L'intensité de l'engagement de la liberté au nom du Christ est le point décisif. Troisième accent ou courant, d'autres encore un appel aux circonstances pour définir ce que la foi engendre comme agir chrétien. Dans nos sociétés sécularisées, disent-ils, le chrétien est appelé souvent à agir comme en contraste avec les autres membres de cette société, s'il veut rester fidèle à l'Évangile. Si on peut tuer les enfants, les chrétiens ne le feront pas. Souvent d'ailleurs, pour le chrétien, le moral ne coïncide pas avec le légal. Autre exemple, si l'on peut divorcer selon le droit civil, le chrétien ne le fera pas. Si l'on peut rejeter les sans-abri et les immigrés, l'amour évangélique nous poussera à les accueillir et à tout faire pour les aider comme des frères, à l'image du bon samaritain, qui s'est arrêté sur la route pour prendre soin du blessé. Dans une société désorganisée et sans école, pensons à l'Afrique, par exemple, l'effort missionnaire va s'attacher à construire un réseau d'écoles et de systèmes de santé pour tous et pour les plus pauvres. Dans une société pluriculturelle, les chrétiens vont s'efforcer de respecter les hommes et les femmes de diverses religions en Inde. Dans toute société et à toutes les époques, dira Jean Vanier par exemple ou d'autres, il s'agit de lire les signes des temps. Le Concile aussi le disait. Les chrétiens discernent le créneau où la charité peut et doit s'exprimer parce que l'État ou d'autres organismes n'ont pas encore perçu l'urgence de tel ou tel souci. Et ce discernement chrétien ne se fait pas en dehors ou à côté de la foi des chrétiens. Dans l'action même, la foi se dit, et le chrétien y éprouve comme une confirmation du bien qu'il fait et de son état de croyant. Dans le discernement qui précède ou qui accompagne ou qui suit toute action, c'est avec foi, en la présence de Dieu et en la vérité de sa parole sur nos vies, que le croyant prend conscience de son être. Dans ces trois courants, ou ces trois accents, je crois, nous avons des réalités différentes, bien sûr, vous l'avez senti, mais qui nous disent quelque chose de l'agir chrétien et de sa spécificité. Il nous montre en tout cas que la foi doit être agissante, qu'elle prend chair de notre chair, qu'elle trouve sa place ou qu'elle doit trouver sa place dans l'histoire des hommes. Et pourtant, on pourrait faire de nombreuses objections à ces manières de définir l'agir chrétien tel que je l'ai fait jusqu'à présent. En faisant quelques études comparatives avec d'autres cultures et religions, nous pourrions découvrir que d'autres hommes et femmes non chrétiens font de même. Il y a des icônes de la charité de par le monde, et ne sont pas toutes chrétiennes, des apôtres de la paix, Confer les prix Nobel de la paix, issus d'autres origines et d'autres religions. La question rebondit, si je veux dire, ainsi. Dans le champ du bien et du meilleur, les chrétiens n'ont pas le monopole. Et c'est peut-être tant mieux si on découvre cela. Puisque le Christ est venu pour tous les hommes, n'est-il pas mort et ressuscité pour tous? Ou bien, et ça c'est le point de doctrine auquel le Concile Vatican II a répondu, dans Gaudium et Spes numéro 22, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu seul connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Ainsi Dieu donne-t-il par son Fils, ça c'est un point important quand même, sa grâce surnaturelle en dehors des limites de son Église visible. Il donne cette grâce pour l'aimer et pour aimer comme il le veut. Rien dans la bonté en ce monde, dans le temps et l'espace, ne se fait en dehors de l'aide et de la connivence du Créateur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Le Christ est donc bien la route de l'homme, première encyclique de Jean-Paul II. Il est l'homme par excellence. Sa grâce déborde les baptisés, mais elle change radicalement tous ceux qui sont baptisés, qui plongent explicitement dans sa mort et sa résurrection. Ainsi donc, pour terminer ce deuxième point, je dirais, réjouissons-nous de pressentir et de pouvoir constater cette bonté dans l'humanité, au-delà des frontières de l'Église, et en même temps de voir l'action surnaturelle présente dans le sacrement de baptême pour les baptisés. L'Évangile et la personne du Christ les poussent dans l'infini de l'amour. Mais alors, que dire encore du specificum, comme on dit, du spécifique de la vie chrétienne? Comment découvrir ce dont parle saint Paul aux Corinthiens? Si donc quelqu'un, je le cite, est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est né. C'est le troisième point que j'aborde maintenant, qu'il est à la fois comme une pré-conclusion, un enrichissement des deux premiers points, et qui est plutôt d'ordre donc de l'économie sacramentelle, l'économie de la grâce divine. Quand on parle d'économie, dans le langage théologique, Jacques, c'est pas au sens des économistes de notre temps. C'est un mode d'être particulier ou un agir particulier, je dirais, on peut traduire l'économie dont parle le catéchisme de l'Église catholique, l'économie chrétienne, c'est une écologie de la maison, de l'Église. Le chrétien est, par son baptême, dans une maison différente, tout en habitant le même monde que tout homme. Il appartient au corps de l'Église, uni intimement au corps du Christ. Il est dans le monde sans être du monde, dit saint Jean. Eh bien, partons de cette notion pour trouver encore un approfondissement dans la figure de l'agir spécifique du chrétien. À l'origine de notre foi se trouve la grâce du baptême qui nous a été offerte sans aucun mérite de notre part et parfois sans beaucoup de conscience pour les petits-enfants. Qui ne savent pas dire oui à ce moment-là. Parfois, ils sourient et parfois, ils pleurent. Voilà. Mais c'est toujours sur la responsabilité des parents, parrains et marraines. Or, celui qui croit au Christ devient fils de Dieu. Je Je cite le catéchisme, au numéro 1709. Cette adoption filiale le transforme. En lui donnant de suivre l'exemple du Christ, elle le rend capable d'agir droitement et de pratiquer le bien. Dans l'union avec son Sauveur, le disciple atteint la perfection de la charité, virgule, la sainteté. Et je souligne cette dernière phrase, mûrie dans la grâce, la vie morale s'épanouit en vie éternelle dans la gloire du ciel. Donc à l'origine de notre foi, notre liberté a été transformée radicalement. Elle était conjointe à la liberté du Christ Seigneur et Sauveur. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Et ce vêtement, ce n'est pas une tunique extérieure. C'est la personne même du Christ à laquelle le chrétien, petit et grand, a été associé et uni. Désormais, dit saint Paul, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez au Christ. Ou bien, saint Paul disait aux Galates, une autre parole très forte, « Ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi et le Christ crucifié. » C'est une identification forte. Donc le baptême n'est pas un acte simplement de purification comme dans le Gange ou d'initiation à une autre religion, mais une plongée dans la Pâque du Christ. Et le baptisé est incorporé en son acte sauveur. Tout baptisé par le baptême meurt et ressuscite en Christ, avec lui, par lui, en lui. Il est mis en Dieu. Son être et donc ses actions seront toujours marquées par cette présence divine. L'action morale du chrétien est donc théologale, c'est-à-dire elle est de Dieu, elle est en Dieu. Elle vient de Dieu pour retourner à lui au sein d'un corps, le corps du baptisé, mais le corps qui est l'Église, pour le salut du monde. Ce grand mysterium, mystère, est une intégration à la personne même du Christ qui ne reste plus extérieure, mais intérieure au sujet qui est baptisé. Désormais, tout baptisé est habité de la présence divine. Cette incorporation prend toute son ampleur dans un autre sacrement, dans le geste de eucharistique, la communion au corps et au sang du Christ. On dit souvent « celui qui a communié a tout reçu ». Il ne doit plus attendre les cadeaux de Saint-Nicolas. Voilà. Il communie, il incorpore en lui le corps et le sang du Christ, et dans le même temps de la communion, de manière surnaturelle, Saint-Augustin dit que celui qui communie est incorporé au corps du ressuscité. Il est mis dans le corps du ressuscité. Ce mystère est grand, nous le disons après la consécration. Ce mystère dit comment la liberté humaine est associée intimement tout en restant elle-même à la liberté divine, mais pas dans l'abstrait, dans la vie concrète. La liberté croit, aime, elle espère en Dieu, alors même que nous sommes toujours à la messe, et puis après, sur le trottoir qui glisse, et dans le soleil, nous sommes dans l'histoire humaine à laquelle nous participons, nous continuons de vivre, nous ne sommes pas encore au ciel. Dit autrement, il n'y a pas d'opposition entre la liberté de Dieu et celle de l'homme. Elles se conjoignent, elles s'associent dans le même acte de salut. Vous allez sourire, je vais en parler un peu, mais boire un verre de bière en Belgique, ça peut être un acte bon qui nous fait participer au salut. Mais donner et offrir un verre de bière, c'est peut-être encore mieux à l'autre. Voilà. Donc, pas seulement. Au-delà des frontières visibles de l'Église. Voilà. Tout ça pour dire, je reprends parce que c'est un peu dense, mais la liberté de chacun et des baptisés se conjoint à la liberté de Dieu et réciproquement surtout, la liberté de Dieu vient, entre intimement dans la liberté de l'homme tout en le laissant le même, identique, en respectant ce qu'il est. Cette communion des libertés personnelles entre une créature et son créateur s'opère dans le même acte où le croyant agit pour le bien de Dieu et pour son bien. Si je fais le bien, pour moi et pour les autres, je fais aussi le bien pour Dieu. C'est à cela qu'il faut tendre. Foi et agir entrent donc en commune résonance, comme les cordes d'une guitare. Foi et agir se fortifient l'un l'autre. Je vais réexpliquer ce point-là qui me paraît fondamental. En tout acte du baptisé, Dieu est présent. Et si le baptisé aime, Dieu aime avec lui. Si Dieu laisse libre l'homme à ce point, cette liberté est toujours remplie de la présence divine. Dieu se rend capable d'accompagner intérieurement tous les actes posés par l'homme. Il est aussi blessé par les actes qui vont contre son dessein d'amour. Mais si Dieu laisse l'homme libre, il est par contre honoré et présent à tout acte bon que le baptisé pose. Ainsi, le chrétien est-il vraiment libre parce qu'il a été libéré en Dieu comme Israël pour éviter le mal, comme on dit en morale, et pour faire l'infini du bien auquel il se sent appelé et qu'il fera en Dieu. Cet appel éthique est en vue de l'amour. Et cet appel éthique est permanent, il retentit sans cesse. On dit aussi que nous serons jugés sur l'amour. C'est-à-dire que en nos vies qui passent, le Christ lui-même passe pour que tout notre être porte du fruit. Et tout sarment en moi, dit Jésus, qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte de fruits, il les montre pour qu'il porte encore plus de fruits. Pour le baptiser, la foi et l'agir sont intimement liés parce qu'il est identifié à la personne du Christ. Donc ce qui fait la spécificité de l'agir chrétien, c'est qu'il émane des vertus de foi, d'espérance et de charité. Dès lors, par l'Esprit de Jésus qui s'unit à son esprit, le chrétien va parler à Dieu lui-même comme un fils et va s'écrier en vérité « Abba Père ». Par l'Esprit Saint, le Christ est plus intime à lui-même que lui-même. Sans nier sa liberté, le Christ libère la liberté du chrétien pour l'inviter à faire comme lui. Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres comme je vous aimais. Aimez-vous les uns les autres. Le commandement nouveau implique un agir précis, sans limite pour l'amour. Le Christ est la référence, mais cette mesure n'est pas extérieure à l'acte de liberté par lequel agit. C'est une mesure comme un millimètre ou un mètre qui est à l'intérieur de notre propre liberté et qui nous donne d'agir libéré. Donc il ne s'agit pas seulement d'aimer au sens simplement comparatif comme le Christ a aimé, mais d'aimer comme le Christ est capable d'aimer à l'intérieur de tous les actes conscients et libres du chrétien. Je vais l'exprimer autrement. Le baptisé aime vraiment, mais de l'amour même du Christ qui lui est intérieur, sans lui enlever aucun trait personnel. C'est pour ça que, par exemple, l'amour conjugal, eh bien, tous les couples font la même promesse conjugale de mariage, mais toutes les expressions de l'amour, un couple n'est pas l'autre, ils ne sont pas interchangeables. Ils sont merveilleux tous. Vous voyez ce que je veux dire ? Les actes humains du baptisé sont d'une autre nature dans ce contexte. Ils témoignent de la présence du Sauveur lui-même dans la réalité commune de la création. Ils témoignent que le ciel et la terre sont unis de manière invisible mais réelle et que le royaume de Dieu est tout proche. Il est en train de se construire de manière ferme, comme la maison construite sur le rocher. Comment l'exprimer, sinon reprenant les paroles de la liturgie, nous agissons par lui, avec lui et en lui. Désormais, tout ce qui existe peut être rendu à Dieu. Tous les gestes et les paroles du baptisé disent la présence et l'action de Dieu de manière humble parfois, mais réelle. Aux yeux de la chair, les gestes sont les mêmes. Aux yeux de la foi, ils sont aussi les gestes du Christ pour le salut du monde. Le don initial de la grâce baptismale non seulement donc accompagne les gestes et les paroles, mais les soutient, je dirais comme dans une matrice croyante, une condition maternelle, ecclésiale, féminine de la foi. Un état théologal qui dit que Dieu est bien présent dans l'histoire personnelle, en même temps qui fait apparaître la croissance des vertus théologales dans la vie des saints, bien entendu, dans nos vies aussi, j'espère, mais aussi parfois l'inadéquation de l'action du chrétien au don que nous avons reçu au baptême. Le don du baptismal est endormi. C'est à cette lumière que nous pouvons comprendre que donner un verre d'eau, j'ai parlé de la bière tantôt, mais un verre d'eau maintenant à celui qui a soif n'est pas une chose banale. C'est un geste du Christ lui-même. Les actes du baptisé et sa vie ressemblent en de nombreux points à ceux du non-baptisé, nous l'avons vu, mais ils sont brûlés de l'intérieur d'une présence qui dépasse même la compréhension de ceux qui posent ces actes. Le baptisé qui fait le bien ne se rend pas compte de tout le bien qu'il fait. Et c'est tant mieux, parce que c'est le Christ aussi qui l'habite. Les normes et les commandements ne sont pas le dernier mot de la morale chrétienne, mais ils disent comment l'Esprit de Jésus voudrait agir en nous et nous aider à agir comme Jésus. La grâce, elle est offerte. Elle prépare le terrain, elle accompagne les actes posés, elle aide à moissonner ce que les autres ont semé. Tout est grâce, je répète, foi et agir, même distincts, disent le même amour pour Dieu dans l'ordre du créé, dans l'histoire, dans l'action du Sauveur qui fait l'histoire sainte avec Jésus. Jésus ne nous a pas quittés par son Esprit, il est toujours présent. Donc la loi est vivante. Cette loi-là, elle donne la vie, elle source de vie, elle mène à la vie divine. Donc la loi est transformée dans l'économie, dans l'écologie de la maison de Dieu, dans l'économie du salut. Aimer reste un horizon, je termine, l'infini du bien à faire et la béatitude éternelle qui en résulte à la fin d'une vie offerte à Dieu et aux autres, c'est ça l'horizon. Mais cet horizon n'est pas inatteignable car il est déjà, l'horizon, il est déjà présent à l'origine, au début, dans le don initial de la foi au baptême. Ce don de Dieu est tellement grand qu'il s'inscrit dans notre histoire humaine, mais toujours comme un œuf, comme un rythme de croissance sans cesse renouvelé qui traverse l'épreuve, qui traverse l'inadéquation de notre action à ce dynamisme, qui traverse le refus du péché. Donc, tous ces obstacles au don de soi du croyant ne sont rien face à la puissance du don initial qui s'inscrit dans l'histoire et retourne à Dieu par sa miséricorde. C'est pour ça que le sacrement du baptême est comme renouvelé par le sacrement de la miséricorde. Car vous serez jugés sur l'amour. On peut encore parler d'une récompense dans les cieux pour le chrétien, au sens où le Christ, comme en Matthieu 25, dans l'introduction, le Christ viendra en personne poser son regard bienveillant sur l'ensemble de notre vie. Ce jugement final est pour tous, mais pour le chrétien, on pourrait dire, vous pourriez discuter, mais pour le chrétien, pour le baptisé, il récapitule tous les oui de son histoire personnelle posée déjà en Christ. C'est qu'en effet le Fils de l'homme, dit Matthieu, doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. Au jugement final, la connaissance que nous aurons du Christ nous gardera par grâce dans une communion interpersonnelle avec les autres, avec lui bien sûr. Mais cette communion, celle qui a poussé le baptisé à se donner au Christ à chaque instant et à devenir de plus en plus, au fur et à mesure de l'âge qui passe, à son image. Le salut, comme vous l'avez vu dans une leçon précédente, n'est pas assuré par l'ensemble des œuvres faites. Il n'est pas assuré, mais il sera confirmé par la personne du Christ qui va reconnaître en chaque homme son propre visage d'amour sous les traits uniques et variés de chaque créature, et donc du baptisé aussi. Je termine et je conclue le point 4. Que vous pouvez lire avec moi. Donc, les vertus théologales s'épaulent l'une l'autre. Foi, espérance et charité dessinent un même visage au ciel et sur la terre. La foi s'exprime par la charité, par un amour qui se lit dans des actes. Car il ne s'agit pas, dit le Seigneur, de crier « Seigneur, Seigneur ». Il faut faire la volonté de Dieu dans l'histoire humaine. La foi est toujours un acte personnel, un oui au don de Dieu. Ce oui est à l'origine de nombreux autres oui, d'une multiplicité d'actes humains que le baptisé peut poser en Christ. Sans être du monde, il est dans le monde. Il pose en Christ les gestes et les paroles qu'il associe directement au mystère du salut. Il ne doit pas attendre. Désormais, quoi que vous fassiez, Faites-le au nom du Christ, dit saint Paul, car c'est le Christ, par son esprit, qui vous donne de faire le bien, de faire tout le bien possible dans votre vie. Ça, c'est ce que je nous souhaite. Je vous remercie.
Merci Alain. Il n'est jamais facile de répondre à la